RMC.
C'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort. C'est-à-dire le bleu absolu, quoi. Le bleu du jour et de la nuit.
Le Super Football Show.
Ah, ce petit compliment pour m'inciter à répondre. Allez, au-delà, tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, hein?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Daniel Rignolo, avec Pierre Ducrot. C'est le moment, comme toutes les semaines, d'accueillir nos drôles de dames. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Pierre, bonsoir Daniel, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir Philippe. Salut. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur?
Pourquoi cette question?
Bah, pour les inconnus. De cendré.
Voilà. Oui, d'accord, merci.
C'est pour faire le lien.
Bah, oui.
Très bien.
Ah, bah oui, mais c'est générationnel, toi, t'es.
Ah non, mais je connais, mais.
On est dessus comme toi, t'inquiète. Hein.
Bon. Hola, Ticos. Bonsoir,
David Lorto est avec nous pour l'Allemagne. Salut David.
Allô, Freunde, salut messieurs. Lewandowski est-il un bon ou un mauvais chasseur?
Ah, bah, en ce moment, il rentre broncouille, comme on dit à Bernabéu.
Et puis, t'es pas en vacances? T'es encore avec nous. Simone Rovera est avec nous.
Ciao, bonsoir.
Qu'est-ce qui te reste?
Salut Simone. Encore 2 semaines, 3 semaines.
Le championnat, il est fini.
C'est fini, c'est week-end.
Oui, ce week-end, il est terminé.
Mais la Coupe du Monde n'est pas encore commencée.
La Coupe du Monde.
Ah bah c'est week-end. Ce mercredi, donc.
Ouais, pardon. Non, mais je m'y fais pas. Je n'y arrive pas.
Même si vos championnats, vos championnats sont pas hyper passionnants, on va pas se le cacher, on va pas raconter d'histoire, hein, la plupart sont joués. Et ben il y a quand même plein de choses intéressantes à développer dans vos avis tranchés et on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Mais non, j'essaie pas de vendre, je suis très honnête en plus. Hein.
Ouais, c'est vrai,
mais
on va voir
vous
ça.
Vous verrez qu'il y a plein d'histoires dans les championnats européens, même quand il n'y a pas d'enjeu sportif. Et c'est pour ça que les interventions des drôles de dames sont passionnantes. On commence par l'Espagne. Jingle, Fred Hermel.
Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué.
Oui, alors
il a marqué. Oui, il a marqué hier soir.
Exactement. Alors Fred, donc tu veux nous parler du Classico qu'il y avait hier. Classico sans enjeu, mais
Non. Avec du jeu. Finalement, à mon avis tranché, c'est là-dessus. Un Classico sans enjeu, ça n'existe pas. Il n'y avait pas d'enjeu mathématique, mais il y avait un enjeu sportif. Footballistique, humain, médiatique, politique, tout ce que vous voulez. Et on a vu un super match. Et là, c'est simplement plus qu'un avis tranché, un petit remerciement à deux équipes qui ont joué le jeu, parce que c'est vrai que ce Classico qui en temps normal aurait pu être la finale entre guillemets du championnat, voilà, le Barça est déjà champion depuis la semaine dernière, on le sait. Le Real Madrid a quand même dans 19 jours ce soir une finale de Ligue des Champions, donc on pouvait imaginer que et l'un et l'autre passeraient ce Classico un petit peu par-dessus la jambe, et alors pas du tout, hein. Il suffisait de voir simplement l'engagement physique, les coups qu'ils se sont mis.
On a vu les savates.
C'était des deux côtés, hein. Je veux dire, il n'y avait pas de personne n'a retenu le pied. Ils ont joué à fond. D'un point de vue du football, c'était génial parce qu'il y a eu du rebondissement. Il y a eu 4 buts, très beau, vraiment très beau. Et voilà,
j'ai passé polémique aujourd'hui pour faire tout le monde.
Et ben voilà, non, mais c'était un vrai Classico. Je dirais même peut-être pas un Mélisimé, mais une bonne année, quoi. On va s'en souvenir comme une bonne bouteille. Voilà, c'est une bonne bouteille.
Varane a fait Milou sur le deuxième but.
Ouais. Mais on a, tu vois,
Il s'est fait déglinguer. Tintin. Ah, il s'est fait déglinguer par Suarez sur le deuxième but.
Mais pour qu'il y ait Milou, faut qu'il y ait Tintin.
Est-ce que t'as aimé
le quoi, sur le premier but, Varane, tu veux dire Milan, il est pas.
Avec Suarez.
Le but de Suarez, mais c'est pas Varane le coupable.
Non, je parlais du deuxième sur quand Suarez part et qu'il le déglingue et qu'après ça arrive jusqu'à Messi et que Messi finisse le travail en endormant et Ramos et Casemiro. Ouais.
Mais là, je crois que Messi, il est quantifié. C'est un but à la Messi, un classique, qui contourne les défenseurs et qui
enroule.
Ça lèche le poteau, mais toujours à l'intérieur du poteau. Ils ont fait le boulot et c'était passionnant et tout le monde est. Et finalement, et je termine là-dessus.
Vas-y.
Quand on a vu par exemple les deux entraîneurs qui sont deux mecs bien, Valverde et Zidane, qui se sont embrassés à la fin du match en souriant, en disant on a offert un beau spectacle, et c'est ce qui comptait finalement.
Et dis-moi, on n'en a pas fait un peu des tonnes sur cette histoire de Passio là avant le match?
Si, parce que finalement ça n'avait aucun intérêt, parce que dès que le match a commencé à se disputer, on était dans la vraie chose.
Ils se sont mis sur la gueule et puis voilà.
Et ils étaient à fond, l'arbitre a été mauvais, mais il y a vraiment un problème d'arbitrage, on sait ça en Espagne. tant que le système VAR, puisque les arbitres dépendent de la fédération, ne sera pas éliminé, ce sont pas les meilleurs arbitres qui arriveront à entraîner en première division, mais les copains des copains des copains. Ah oui. Voilà, donc il y a une sorte de mafia, et c'est dommage.
Je me tourne vers l'ancien joueur que l'on a avec nous, Daniel. Non, Pierre. Donc on a tous constaté donc hier, et on en parlait tout à l'heure chez Dugas, que donc ils se sont mis sur la gueule, hein, pour reprendre votre expression. Mais pourtant au coup de sifflet final, tout le monde se tape dans le dos. Est-ce que toi, quand t'étais joueur, t'étais capable de ça, ou est-ce que quand vraiment ça allait loin, t'avais du mal à faire la part des choses?
Bah ça dépend avec qui. Quand c'est des joueurs.
Par exemple avec Ravanelli et Dugarry là, qui voulaient te faire des goupillés à l'époque.
Eh ben tu sais quoi, Ravanelli, 2 ans après, on joue ensemble à Derby County, on n'a aucun problème, au contraire. Au-delà de ça.
Le soir même.
Mais non, parce que j'avais, je connaissais ni Dugas ni Ravanelli à cette époque-là, et après le match, je m'en fous complètement, ils sont dans leur vestiaire et basta. Après quand tu joues contre des gens que tu... Alors je sais pas avec qui t'as été formé peut-être, que t'as croisé plusieurs fois.
Ou des coéquipiers d'équipe nationale. Hein.
Ouais, voilà, ou des coéquipiers d'équipe nationale. Ça, j'étais un peu moins concerné par ça, mais.
Parce que Ramos et Messi se sont embrassés, mais ils ont fait tellement de matchs ensemble.
Ouais, c'est pas un problème, ça t'empêche pas de te rentrer dedans et ensuite d'avoir du respect.
Caractère, non ? Enfin, je sais pas.
Pourquoi ?
Non, je sais pas. Moi, je me dis que je serais incapable si le mec il m'insulte.
Tu veux que je cite un exemple, moi, à mon époque ?
Je rentre dedans et tout, je vais pas lui taper dans la main.
Tu veux que je cite un exemple, moi, à l'époque ? Je sais pas si tu te rappelles le jour-là, Frédéric Mérieux, oui, qui jouait 10.
À Lensois.
Oui. Voilà. Bah oui, Frédéric, toi, tu connais. On se rentrait dedans dans les matchs, mais je te jure, on se rentrait dedans, on s'insultait, Et à la fin des matchs, on s'aimait bien.
Ah ouais.
Okay. Et ben voilà, on parlait, etc.
Ben voilà.
Bon, ça me pose pas ça. Ouais. Et moi, je peux te jurer que j'ai jamais essayé de lui mettre un coup pour lui faire mal, par contre.
D'accord.
Par contre, il y a eu des gestes, par exemple, parce qu'histoire de Passio, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment un truc de journaliste, je vous promets. Et c'est dommage.
Écoute, c'est dommage.
Et finalement, c'était vite éliminé. Après, vous avez Zidane qui a attendu un bon moment, assez caché dans le tunnel, etc., pour aller retrouver Iniesta, pour lui faire une grande embrassade et pour lui citer bonne chance, parce qu'il se respecte, parce qu'il s'admire. Vous avez Ramos qui, après le match, a dit, alors que l'arbitrage a été mais lamentable, en disant ok, l'arbitrage a été mauvais soir, etc., mais c'est pas la question. Le Barça est un très beau champion, ils ont fait un magnifique doublé, ils ont mérité, ils ont su profiter du fait qu'on a fait un mauvais démarrage de saison, il n'y a rien à redire, bravo à eux. Voilà. Et pourtant, bras su avec Messi, vous avez vu Messi, le petit, ce qu'il lui a mis à Ramos.
Ouais.
À un moment, il a fallu casser la cheville, quoi. Voilà, c'était un truc de, voilà, et c'est bien, la rivalité, elle est bonne, et elle est saine. Et je vais vous dire une chose. Avec Mourinho, ça se passait pas comme ça. Et je dirais même quand c'était Guardiola non plus. Parce que, à la fin, les mecs se parlaient plus. Quand ils étaient en sélection, ils se parlaient plus. Là, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la vraie rivalité, mais à la fin, tout le monde s'embrasse, et en sélection, ils vont tous ensemble, être tous ensemble. Et ça aussi, c'est ce qui est insufflé par les entraîneurs.
Alors Fred, on voulait aussi parler de l'Atlético, pardon, avec toi, puisqu'on est à 9 jours de cette finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético. La défaite, qu'est-ce qu'on en dit de cette défaite de l'Atlético?
J'étais bien entendu au Wanda hier. C'était quand même un peu un match. Je vais pas dire qu'ils l'ont pris par-dessus la jambe, mais c'était 3 jours après la qualif contre Arsenal. Ils étaient un peu émoussés, puis il y avait un peu de turnover quand même de la part de Simeone. Après, il faut retenir quand même que Black en a pris 2, que c'est la première fois depuis 12 matchs que l'Atlético encaissait au moins un but. Voilà, c'est la première défaite en Liga dans ce stade. C'est-à-dire depuis le début de la saison, donc c'était un peu étrange. Je vais pas vous dire que d'un coup l'Atlético est devenu prenable et que c'est un boulevard pour l'OM. Non. Mais bon, il y a des choses que Rudy Garcia va pouvoir étudier sur la manière dont Black s'est pris de but. Après, on ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Par contre, si, il y a une information, c'est qu'un joueur qui n'est pas titulaire, mais qui est un des premiers remplaçants, Vitolo, Victor Machin dit Vitolo, s'est blessé. Hier, il est sorti au bout de la 25e minute. Il a une lésion musculaire derrière la cuisse gauche. À combien il reste, c'est dans combien? Dans 11 jours? Ça fait même pas, non, même pas. Hein? C'est 10 jours. 9 jours. À 9 jours de la finale, même si les médecins disent qu'ils sont plutôt optimistes, qu'ils vont tout faire pour qu'ils soient disponibles, on voit pas comment Vitolo pourrait être dans le groupe. Voilà. Donc c'est un petit contretemps, pas énorme, mais quand même, parce que c'est un joueur qui, vous vous souvenez, Vitolo, il joue en sélection nationale, il va peut-être aller au mondial, donc voilà, c'est une alternative sur le banc que n'aura pas Simeone face à l'OM.
Ok. Côté Marseille, d'ailleurs, aujourd'hui, on a appris le forfait de Rolando pour le match à Guingamp, mais que tout serait fait pour qu'il soit de retour pour la finale de l'Europa League.
Ouais, maintenant, à 9 jours, on commence à regarder de près, tous les petits bobos, etc. Alors, j'ai oublié de donner des nouvelles de Cristiano Ronaldo.
Voilà.
Voilà, parce que il s'est tordu la cheville hier
sur son but.
A priori, c'est pas une entorse.
Vu le retour de Piqué,
on lui a tordu
la cheville quand même.
Ouais, un petit peu. Oui, mais bon, voilà, il s'est piqué. C'est vrai qu'il a pas lâché son. Il s'est lâché là-dessus. A priori, il y aura pas de problème, quoi. Il y a pas de ligament très atteint, etc. Voilà, c'est une torsion de cheville. Et puis je vais vous dire. Si dans 20 jours il est encore un petit peu bobo, il va s'infiltrer pour contre la douleur, Pierre. Finale de Ligue des Champions.
Avant de s'infiltrer dans les défenses, il va s'infiltrer tout court.
Est-ce qu'il peut avoir un bon niveau en ayant une infiltration dans 20 jours l'inflammation sera réduite quoi. Donc
Oui. Non mais là-dessus oui, c'est une certitude. Non mais surtout sur une blessure comme ça qui sera quoi qu'il arrive en phase terminale quoi. Donc voilà.
Ça te change quoi de jouer sous infiltration?
T'as pas mal.
Ouais, ça peut être dangereux. Tout, ouais. Non, c'est pas une question de sensation, c'est une question que c'est un cache-misère et que ça peut être dangereux pour la suite.
Mais
voilà.
Le soir du match, tu sens rien, t'es comme d'hab.
Pendant le match, non, c'est fait pour que tu sentes rien, justement. Après le match, tu douilles parfois.
T'as les mêmes sensations et tout.
Oui, surtout là pour une cheville. Oui.
Après, ce sont des infiltrations d'anti-inflammatoires. Hein,
c'est uniquement pour la douleur.
Des choses un peu. Oui, oui. Voilà, c'est...
Dis-moi, voilà. Fred, on a eu une info RMC Sport aujourd'hui sur le futur entraîneur de Nice et la priorité, ce serait Berizzo que t'as connu à Séville.
Bon entraîneur. Et puis surtout au Celta. C'est au Celta où ça a bien marché.
Ah, et au Celta, ouais.
Très bon entraîneur.
Très bon, ouais.
Très bon. C'est un peu l'école Bielsa, hein, je vais vous dire.
Mais il sera fracassé ici, hein, justement.
Ouais, mais en moins jusqu'au boutiste et en plus sympa avec les joueurs et avec les médias. C'est-à-dire qu'il regarde les gens quand ils parlent, tout ça, il fait pas des crises, il est normal, quoi. Dans son
et
style
pourquoi
de
ça
jeu,
passé
c'est...
à Séville?
Parce qu'il s'est fâché avec le meilleur joueur qui s'appelle Nzonzi et que, voilà.
Ah, et entre les deux, le club a choisi une bonne.
Voilà, exactement. Okay. Voilà, c'est tout simplement ça. On se souvient qu'il avait été victime d'un cancer du testicule. Il est remis, hein. Tout va bien. Très bon entraîneur et au niveau du spectacle, c'est ce qu'il a fait au Celta Vigo. Il a quand même fait une demi-finale de Ligue Europa. Ce qui est quand même pas n'importe quoi l'an dernier,
hein,
face
à Ligue Europa en France, c'est pourri, hein. Sache-le, hein. Emery, il en avait gagné 3, c'était de la merde.
Ah ouais, ben ça... non, c'est revenu, là.
Ah si.
Personne n'a dit ça.
Si, la Ligue Europa, ça vaut rien. Ça a été dit.
Je me rappelle pas de personne disant ça. Je me souviens des déclarations de Neymar qui ont été rapportées, comme quoi il aurait dit, moi je sais pas ce que c'est, je joue que la Ligue des Champions. Mm-hmm. Mais de la part des observateurs, ça je l'ai pas. Ce que tu me disais sur son attitude sur le banc, sur son accent et tout, pourquoi pas. Mais ça, les gens qui dénigrent le fait qu'il ait gagné 3 Europa League, je l'ai pas. Mais bon.
D'accord.
Bah, peut-être retrouver sans problème.
Si tu le dis, c'est bon.
Non, mais peut-être tu vas retrouver sans problème.
Ouais.
Des nouvelles d'Iniesta?
Oui, vas-y.
Eh, parce que c'est tombé ce soir, c'est la Cadena Ser qui l'a annoncé il y a quelques minutes. Il semblerait que l'accord avec le club chinois où devait partir a été rompu, que le club chinois ne met pas les 20 millions nets sur la table et qu'il partirait au Japon.
Ils achètent pas le Pinard?
Bah alors, attends, vous voulez que je vous raconte cette histoire si on a 2 minutes?
Vas-y.
Parce que l'autre jour, je suis tombé avec des spécialistes du vin, et il y avait une dame qui m'a expliqué en fait exactement, qui connaît très bien l'histoire, qui est une œnologue, et qui m'expliquait très bien en fait le vin d'Iniesta est pas très bon, et que en Chine en fait le club en question avait fait une promesse d'achat de je sais plus combien d'hectolitres. Mmh. De millions d'hectolitres, enfin un truc de malade, avec en plus mettant les moyens pour que le vin s'améliore en fait, qu'on améliore la qualité première du vin, c'est-à-dire que voilà il y avait un montage mais un truc de folie quoi, mais finalement a priori ça n'a pas marché et il partirait à Kobe, très bonne viande d'ailleurs, je sais plus le club de Kobe, enfin de l'île de Kobe,
Vissel Kobe
exactement, Vissel Kobe, c'est ce que dit la Cadena Ser ce soir.
Là où joue Podolski, il paraît.
Lucas Podolski et Wellington, le Brésilien, absolument.
Waouh.
Ouais, ben. C'est extraordinaire.
Après le vin au Japon, c'est plutôt le vin de très bonne qualité là-bas, hein, qu'ils aiment.
Ah oui.
Ça va être dur pour sa piquette.
Ça se travaille le vin.
Oui. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'il voulait faire, mais. C'est un peu compliqué.
Bon, très bien. Voilà pour l'Espagne, messieurs. L'Angleterre à venir dans un instant. Et juste pour être précis, puisqu'on a parlé des sanctions alourdies concernant Lyon.
On a fait une erreur là-dessus.
Alors, voilà, Lyon n'a
ça
pas fait appel.
Ça m'étonnait quand même. Voilà ce que c'est tout ça par cœur.
Lyon n'a pas fait appel directement.
Et pardon, président, d'avoir.
Lyon a publié un communiqué d'ailleurs aujourd'hui en disant que c'était pas normal d'ailleurs que les médias aient cette sanction avant l'Olympique Lyonnais. Et dit bien que c'est l'OM qui a saisi la commission d'appel de la Fédé et donc qui alourdit les sanctions. D'autant que Jean-Michel Aulas avait décidé de ne pas venir devant la commission d'appel parce que c'était incompatible avec sa présence au COMEX de la Fédé. Et bon, il s'étonne lui que Jacques-Henri Hérault ait pu librement critiquer la commission de discipline de la Ligue. Allez sur rmcsport.fr, on vous résume tout ça. En tout cas, l'OL prend acte de cette décision et regrette l'iniquité de traitement.
Et voilà. En parlant d'iniquité de traitement, l'OM aura un jour de repos de plus que l'Atlético qui n'a pas obtenu le droit de jouer à Retafé vendredi soir. Mais jouera samedi après-midi. Ça peut compter.
Bon, il mettra une équipe B, puis voilà.
Mais il n'y a pas un gros effectif hein, du côté de l'Atlético.
Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu en championnat. Alors que pour Marseille, c'est impossible de mettre les
maisons. Ouais, mais bon, il faut dire qu'il est vénère. Hein. Il est vénère, Simonet. Hein.
Vénère, carrément.
Hier, il était furax en disant on a que 4 jours pour pas le match, c'est pas normal.
Oh là, il est prêt à venir en Ligue 1. Hein.
Nous, on entend ça tout le temps. Il se roule pas encore par terre, hein, quand même. Il a du travail.
Ah, Simonet, il pourrait. Hein. Franchement, s'il glisse un peu.
Il s'est jamais encore roulé par terre.
T'as Simonet au PSG.
Ah, il a un sacré caractère, je peux te dire.
Ouais, mais nous, les coachs, ils se roulent par terre ici.
Oui, c'est vrai. Il glisse. Dans un instant, avis tranché de Philippe Auclair. Une époque a pris fin en Angleterre ce week-end. On revient aussi sur l'ensemble de l'actu. Et puis, avis tranché de Simonet Rovera, de David Lorto. On est là jusqu'à minuit avec un gros programme dans l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, nos drôles de dames également comme tous les lundis, Fred Hermel pour l'Espagne. Simonet Rovera expliquera dans un instant pourquoi il faut absolument conserver Mauricio Sarri à Naples. David Lorto lui expliquera pourquoi Lewandowski devient un problème au Bayern. Mais place tout de suite à l'Angleterre, jingle Philippe Auclair.
Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi.
Et là Philippe, tu nous dis qu'une époque s'est terminée en Première Ligue ce week-end.
Oui, je crois qu'on en a pris conscience surtout que quelque chose s'était passé. C'est plutôt une conjonction d'événements, l'un qui était un adieu, l'autre qui était la crainte d'un adieu, je dirais, à savoir bien évidemment l'adieu à Arsène Wenger d'un côté à l'Emirates et de l'autre évidemment toutes les inquiétudes que l'on peut avoir sur Sir Alex Ferguson après son hémorragie cérébrale et l'opération de samedi. Je précise tout de suite que nous n'avons absolument aucune nouvelle qui vienne de l'hôpital de Saint-Fod, que donc laissons les médecins faire leur boulot. Il est très probable qu'il va y avoir encore une semaine, 10 jours, voire 15 jours pendant lesquels nous n'aurons pas d'informations. Mais on a franchement pris conscience ce week-end qu'on avait tourné une page, que Alex Ferguson, même si jamais il n'était plus entraîneur, on continuait de le voir dans la loge présidentielle de Manchester United à Old Trafford. Arsène Wenger, même si on savait qu'il allait partir, là c'est devenu quelque chose, c'est devenu une réalité. Et tout d'un coup, on se rend compte que les deux hommes sur lesquels la Première Ligue s'est bâti. Hein. Alex était déjà en place, bien évidemment, lorsque la nouvelle Première Division a été créée et est devenue cette espèce de monstre médiatique et de monstre globalisé. Arsène est arrivé en 1996, donc seulement 4 ans après la création de la Première Ligue, au moment où elle explosé véritablement. Et là, tout d'un coup, on se retrouve sans les deux grands référents, je dirais, de cet âge, de ce premier âge de la Première Ligue, ce qui est encore renforcé par des départs à la retraite de joueurs emblématiques. Peter Crouch, façon de partir, Per Mertesacker s'en va. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et tu as vraiment le sentiment en Angleterre, et c'est de ça dont je voulais parler, c'est de cette perception, que tu clôtures vraiment une ère, qu'il y a une autre époque qui est en train de... qui va commencer, qui a déjà commencé d'ailleurs avec des managers comme Guardiola, comme Pochettino, comme Klopp, etc. Mais que là, franchement, on a clos un chapitre pour de bon. Et je crois que c'est l'une des choses qu'on a vraiment ressenti, en particulier à l'Emirates, hier, lorsqu'on a entendu Wenger faire ce discours et en particulier rendre hommage à son ami, son ancien ennemi et maintenant grand ami, Alex Ferguson. Et oui, c'est un constat très bizarre et qui est difficile un petit peu, je t'avouerai personnellement assez difficile à accepter et à internaliser, si je peux m'exprimer de la sorte. Et je pense qu'il le sera encore plus la saison prochaine. On a vraiment passé un, on a passé un virage là.
Mais alors, on a l'impression que tu es triste presque, Philippe.
Oui, bah, oui, je suis triste parce que d'une part, je me fais du souci pour Alex Ferguson, comme tout le monde, comme le monde du football tout entier, parce que je crois que vous, ça a dû vous frapper comme ça, ça m'a frappé moi, c'est que la réaction est extraordinaire. Je sais qu'on vit dans le monde des réseaux sociaux, de la réaction à la seconde, que tout le monde doit réagir. Mais de là à voir ce qu'on a vu, et dans le monde entier, pas seulement en Angleterre, c'est vraiment tout le monde qui est au chevet de Sir Alex, en train, bon, de prier si tu crois en Dieu, et, ou de croiser les doigts si t'es superstitieux, ou tout simplement de lui souhaiter bonne chance si t'es ni l'un ni l'autre. Et du coup, tu te sens, oui, tu as une tristesse parce que il y a ça, et puis en même temps, moi j'ai une tristesse personnelle de voir Arsène Wenger partir. Il va me manquer, j'ai pas honte de le dire. Ouais. Je crois qu'il va manquer à... Il va nous manquer à nous autres journalistes également. Je crois que d'ailleurs tu as vu Fred parler de vin, mais vous avez peut-être vu que lors de la conférence de presse après le match contre Burnley, l'association des journalistes anglais a donné une bouteille de vin à Arsène à la fin de la conférence de presse. C'était bien évidemment cru 2004 comme l'année des Invincibles. Ah oui. C'était pas une mauvaise bouteille, hein. Je peux te garantir qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas été chiches en l'occurrence. Mais oui, c'est vrai, c'est une tristesse. C'est une tristesse.
Pierre, Daniel, sur ce que dit Philippe, vous voulez rajouter quelque chose?
Bah, que ce soit à la fin d'une époque, oui, assurément.
Ah oui. Ouais. Bah oui, puis qu'effectivement c'est. Triste, je sais pas, mais c'est beaucoup d'émotions.
Bah après, à un moment, les pages, oui, c'est les pages, elles doivent être tournées. Wenger,
c'est aussi pour ça que je bute un peu sur le mot triste, parce que c'est un peu une, c'est un peu normal, quoi.
Pour moi, il y a aucune tristesse. Wenger a très bien bossé la moitié du temps qu'il a passé à Arsenal, moins bien l'autre moitié. Il a eu une vie magnifique, plein de succès. Tout s'est très bien passé. Il arrête, d'autres vont arriver. C'est bon. Je veux dire,
oui, mais le lien émotionnel est tellement fort quand tu as 22 ans dans un club, et c'est un lien qui va au-delà du lien avec le club. Tu as qu'à voir la réaction des autres équipes, la réaction justement, ben celle justement d'Alex Ferguson et José Mourinho il y a encore une semaine.
Non mais ça c'est un respect absolument
normal.
C'est
lié à l'exceptionnalité de son parcours,
pour le parcours, ce qu'il a fait et tout. Ouais. Ça doit pas forcément engendrer de la tristesse. C'est d'ailleurs lui souriait hier sur la pelouse. Il souriait.
C'est de la mélancolie.
Merci, au revoir pour tout ce qui a été fait. Soit j'aurais une autre aventure, soit j'aurais pas d'autre aventure. Il était ému, c'est de l'émotion, quoi. Voilà, c'est tout.
Et il était très 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 touché. On était en effet dans la pure émotion, mais on a vécu un week-end de pure émotion, et c'est normal que c'est une émotion triste et mélancolique, et en même temps douce, amère, tout ce que tu voudras. C'est moi, je compare ça un petit peu comme aller à un enterrement. Et retrouver des amis, et tu te dis, mais pourquoi je vous ai pas parlé depuis si longtemps? Pourquoi est-ce que, c'est quoi toutes ces conneries là, toutes ces choses? Et j'ai l'impression que ce week-end, tout le monde s'est un peu calmé, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est...
Ah bah, au moment où ils partent, ceux qui voulaient qu'ils partent, disent merci, c'est, voilà.
Exactement.
Ça me paraît absolument normal.
Ça me paraît en effet totalement normal, et c'est plutôt bon signe. Triste, mais bon, attends, le football continue, la vie continue, voilà. Et Arsène rebondira peut-être, d'ailleurs sans doute même.
On a eu aussi beaucoup d'émotions sportives sur le terrain.
Oh oui.
Nous, on a la course au podium qui nous passionne en France. Toi, t'as la course à la quatrième.
Et on était en train de,
la descente.
Avant que tu arrives avec Pierre et Jean-Louis de regarder et de constater que, ça pue beaucoup pour Liverpool.
Ouais.
Va être éjecté de la zone Ligue des Champions, sauf catastrophe. Enfin, sauf miracle
si gagne
pour
aussi.
Ils ont encore leur destin en main, et surtout ils ont un dernier match.
Ils ont leur destin en main? Ils ont plus qu'un match à jouer, et les autres ont deux matchs.
Mais tu regardes leur différence de but. Il y a pas de problème.
La différence de but.
Et en Angleterre, c'est pas
si Tottenham gagne ses deux matchs et Chelsea gagne les deux matchs.
Ah oui, c'est ça, il y aura égalité, ça joue la différence.
Mais pas Tottenham.
Pas Liverpool. Daniel. Quand tu parles de Liverpool.
Ah, Liverpool peut venir quatrième encore.
Ils peuvent terminer quatrième si Chelsea gagne les deux et qu'eux gagnent le match, et là, ça sera la différence de but.
Voilà. D'accord.
Exactement.
C'est ça. Okay. Je m'arrêtais à Tottenham, pardon.
Mais je te dirais, cela dit, que tu peux absolument pas prédire ce qui va se passer, parce que ils sont dans un drôle de moment, ils sont pas bien.
Ils ont un peu dans la tête une finale de Ligue des Champions.
Pas qu'un peu, Fred.
Hein. Bah ouais, ça peut perturber. Hein.
Quand t'as un effectif en plus de ça, à cause des blessures, mais aussi à cause du fait que c'est pas un effectif fantastique, pas encore en tout cas, même s'ils vont beaucoup se renforcer à l'été, comme vous êtes les premiers à le savoir, il ne rassure pas. C'est ce qu'on puisse dire. Mohamed Salah marque un peu le coup. Je me demande d'ailleurs si le fait qu'il ait reçu les deux trophées que donne le football anglais, que ce soit les joueurs ou les journalistes, bon, qu'on va lui donner d'ailleurs jeudi soir, ça lui a un petit peu changé son état d'esprit, qu'il y a des petits problèmes également au niveau du droit d'image en Égypte, avec l'équipe nationale qui respecte pas vraiment des accords qu'il lui-même a passé avec un opérateur téléphonique, etc. Enfin, il y a des tas de trucs qui se passent en ce moment qui sont pas des choses qui vont l'aider à se concentrer. Espérons qu'il soit dans un meilleur état d'esprit et qu'il soit surtout meilleur sur la pelouse, parce que depuis 3 matchs, tu le sens fatigué. Et c'est normal. C'est totalement normal que tu passes par que t'aies des petits trous d'air. Et ça vaut également pour d'autres joueurs de Liverpool. Alors, ils ne sont pas en ce moment leur niveau, mais tu peux te demander, est-ce que tout simplement pas, parce qu'ils sont concentrés, mais à fond, oui, sur ce match contre le Real Madrid.
Ouais, c'est pas
mais
de
t'as peur, mais absolument, t'as peur
bah
de
ouais,
te blesser.
Parce que après, les mecs du Real, ils ont joué à fond et tout ça, mais c'est des types qui ont l'habitude, ils en jouent plein de la Ligue des Champions.
Et le Real a un effectif tellement supérieur en profondeur également.
Oui, non, mais parce que quand tu vois Ronaldo hier, la manière dont il joue, etc., il joue à fond, il lâche. Mais bon, il a l'habitude de gérer ce genre de moment. Il sait, il y a des joueurs qui vont jouer à Liverpool, la plupart vont jouer leur première Ligue, enfin non, tous, leur première finale de Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que Pierre, là, j'ai une question à Pierre, est-ce que...
Moi, j'en ai pas joué,
Fred. Ouais, mais quand tu sais que t'as un gros match qui t'intéresse dans 3 semaines, etc., est-ce que t'as tendance inconsciemment à lever le pied, à faire une gaffe?
Moi, j'ai envie de te dire que ça dépend vraiment, vraiment du caractère du garçon. Honnêtement. Mm-hmm. Honnêtement, j'ai pas eu la chance de faire une finale de Ligue des Champions, mais je suis pas sûr que j'aurais levé le pied le match d'avant. C'est peut-être idiot, hein, parce que finalement.
Il y en a un qui lève pas le pied, mais qui lève la tête, c'est Olivier Giroud, qui a encore été décisif. Donc, puisque Chelsea a battu Liverpool 1-0.
Oui, et Chelsea en jouant bien, c'est avec un superbe Eden Hazard au passage. Hein. Mais franchement, et un Eden Hazard en colère, c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on voyait peu chez lui. Je pense qu'il est simplement frustré de sa saison.
Ouais.
Qu'il a commencé tard, tu te souviens, il était blessé, il a commencé au mois de septembre, il était pas bien, il a pas eu de vraie préparation, il a eu du mal à trouver son rythme.
Qu'est-ce qu'il prépare pour lui d'ailleurs?
Ah, écoute, je ne sais absolument pas, c'est une très bonne question, parce qu'on a beaucoup parlé du Real, mais j'ai l'impression que le Real ne s'intéresse
plus trop à lui.
Tu sais pourquoi?
Bah, dis-moi.
Les deux mauvais matchs qu'il a fait contre le Barça. Ça a pas beaucoup plu dans les bureaux.
Il est pas mauvais contre le Barça. Bon,
les gros matchs aujourd'hui, c'est un peu ce qui détermine souvent les choses, tu regardes, tu dis qu'est-ce qu'il a fait.
Il plaisait beaucoup, il y a eu des contacts, Zizou lui avait parlé, etc.
Ah, mais c'est un merveilleux joueur.
C'est sûr, il y a la Coupe du Monde qui arrive, la sélection belge arrive en outsider, il y a des choses à voir,
Et après, si la sélection belge fait quelque chose de bien,
absolument,
ils vont encore regarder. Mais moi, je vous dis, ce qu'on m'a dit de l'intérieur, c'est, quand même, ces deux matchs contre le Barça, ça a un peu refroidi les choses.
Ouais. Alors, juste pour finir sur Chelsea-Liverpool, on en a parlé en première heure, nous, mais je sais que Pierre, tu voulais reparler avec Philippe de Fekir, de son utilisation éventuelle à Liverpool.
Ouais, comment tu vois la venue de Fekir?
Je suis pas trop surpris que ça soit le type de joueur qui plaise à Liverpool et qui plaise à Jurgen Klopp. Je suis pas surpris du tout.
Ah, tu vois. Bon, comme quoi on n'a pas le. Ouais. Moi, j'ai du mal. Alors c'est quoi? C'est Klopp change de système ou Klopp va utiliser Fekir pour toi sur un côté?
Non, je me pose plutôt des questions quant à moi. Oui, sur un côté sans le moindre doute.
Mais là vous faites fausse route. Mais pas Philippe. Hein, vous faites fausse route. S'il vient, c'est parce que Klopp
change de système.
Ben bien sûr. Fekir ne joue pas en 4-3-3 sur un côté, ou alors il faut qu'il fasse une préparation.
C'est pour ça que je trouvais dangereux.
Et qu'il se transforme physiquement comme jamais.
Attendez,
demandez à tous les entraîneurs qui l'ont eu, vous verrez qu'il ne peut pas jouer dans ce système-là.
D'une part, il y a beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui à Liverpool qui n'ont pas joué dans un 4-3-3 auparavant et qui sentirent très très bien aujourd'hui. C'est la première chose que je dirais. La deuxième, c'est que le système de Liverpool va de toute façon changer avec l'arrivée de Naby Keita. Naby Keita est un de ces joueurs qui te fait complètement changer ta façon d'appréhender.
Bah, peut-être qu'avec Keita, ils seront deux au milieu, Fekir devant eux et les trois devant.
Mais c'est pas impossible, mais dans ce cas-là, ça devient un 4-2-1-3, c'est une autre forme de 4-3-3, hein. Je veux dire, ça change pas énormément de choses. Je me pose la question quant à moi.
Ça fait un 4-2-3-1, en fait.
4-2-1-3.
Oui, ça dépend comment tu le fais.
Bien sûr. La position de Fekir, ça, derrière l'attaquant.
Au-dessus des deux milieux défensifs,
pas sur un côté, pas à la place de Salah ou de Sané maintenant, quoi. Voilà.
Mais la question que je me pose quant à moi, est-ce que ça ne laisse pas présager également de possibles départs du côté de Liverpool? Est-ce que Fekir n'est pas aussi là pour pallier un départ? Car je t'avouerai, je me pose la question parce que je n'ai pas encore
réponse. Tu remplaces pas Sadio Mané par Fekir ou Salah par Fekir. C'est pas du tout le même genre.
Et ou Roberto Firmino,
qui vient de
prolonger jusqu'en 2022.
Tu peux prendre un avant-centre plus avant-centre qui fait même le travail comme Firmino et t'as derrière un homme comme Fekir qui fait le travail.
À partir du moment où il est, c'est une façon de voir les choses. Je veux bien, mais
ça veut pas dire. Mais moi, j'attends de voir. Je pensais quant à moi, première réaction, c'est plutôt sur un côté d'un 4-3-3 qui va le faire jouer. Ok. Ouais. Ok.
Nous qui le verrons régulièrement, ça nous paraît difficile. Mais bon, après, Klopp peut aussi.
Tu sais, les joueurs peuvent changer de position.
Il peut le transformer. Mais voyons.
Alors, Philippe, un mot sur la Lacazette aussi pour finir. Avec
oui, juste la Lacazette qui a marqué, qui a fait une passe décisive. Bon, qui était en fait un tir au but qui est devenu une passe décisive, mais qui a d'excellentes stats. 17 buts en 37 matchs officiels avec Arsenal pour une première saison. Quand il était dans une équipe qui fonctionnait pas terriblement, c'est quand même assez remarquable. Donc lui est en bonne forme comme Olivier Giroud et ça c'est plutôt bon signe. Juste très rapidement, Puel c'est fini, on attend donc la décision pour le remplacement plutôt qu'autre chose. On en reparlera plus tard. Stoke relégué, c'est pas une surprise du tout. Et puis juste à signaler, 45 000 spectateurs à la finale de la FA Cup féminine ce samedi à Wembley.
C'est beau ça.
C'est très une bien. Explosion gagnée par Chelsea, de loin la meilleure équipe je pense en ce moment en Europe. Chelsea gagnée par Chelsea contre Arsenal par 3-1, 45 000 spectateurs et audience record également sur la télévision britannique. C'est en train d'exploser le foot féminin en Angleterre.
Et ben parfait,
c'est vrai.
On enchaîne dans un instant avec la vitrine.
C'est Narbé qui va être content. Hein.
Et celui de Simone Romera. Narbé, c'est bien Armendi. Hein. On l'explique à chaque
fois. Ils ont toujours un système de salarié cap qui les limite un peu quand même.
Ah ouais.
Il va falloir changer ça.
Vous avez un vrai débat sur le PSG féminin là ?
Non, pas du tout.
Non, pas sur le PSG, sur le foot féminin anglais.
Ah, mais en Italie, depuis l'arrivée de la Juve cet été, là aussi la vision du football féminin, ça change. Il y a des pages aussi sur le quotidien. Donc,
très bien, on en fera un sujet dans la fin si vous voulez. Dans un instant, la vie tranchée de Simone sur l'avenir du banc de touche à Naples. A tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo est là, Pierre Ducros est l'after jusqu'à minuit avec les drôles de dames, Simone Rovera, Fred Hermel, Philippe Auclair et David Lorto. Il nous reste l'Allemagne et l'Italie, on y va, jingle Rovera.
Ma Philippe, mais il y a même un carton rouge qui est énorme. Mais comment tu peux dire que c'est des conneries?
Mais à ce moment-là, tu te moques de l'Italie,
tu te moques de supporters de la Roma. Mais arrête avec tes conneries. Va fermer la ligne.
Voilà. C'était la semaine dernière en Ligue des Champions.
Simone,
enfin, c'est Simone s'est lâché. Simone a parlé avec son cœur, a laissé tomber le masque de la télé, de la radio.
C'est bien, il sera pas frustré à la fin, tu vois. C'est bien.
Et oui, c'est ça qui est bon aussi.
C'est vrai.
Mais voilà.
Parfois, je suis fier de toi, Simone. Parfois. Tu toi-même.
On me parle. Slash, c'est comme ça aussi.
Partir.
Alors, tu veux nous parler de Laurentiis et de
Sarri. Oui, parce que on sent vraiment la fin du mariage, on sent la fin d'une saison très belle mais très compliquée, surtout pour ce titre qui n'est pas arrivé après avoir tout misé sur ça. Il y a eu beaucoup de
frustrations là.
Beaucoup de frustrations aussi, mais quand tu perds un rêve si grand, c'est normal que tu
restes avec la déception. Caressé toute l'année, à la fin, elle se barre toujours avec le même mec.
Et c'est plus ou moins.
Demande
comme
à Fred,
ça.
Il est habitué, c'est relou.
Le vieux en plus.
C'est triste.
En plus, elle part toujours avec le vieux beau.
Le
vieux beau riche qui a la belle bagnole.
C'est ça. Et surtout des bagnoles là.
Toi, t'arrives, tu t'es démené pendant un an.
C'est ça. Mais là-dessus, il faut bien viser tes objectifs. Et j'ai l'impression que Naples n'a pas bien visé ses objectifs, n'est-ce pas?
C'est exactement ça, Fred, où je veux aller, parce que le président de Napoli a parlé beaucoup cette semaine. Il a fait comprendre un peu son énervement pour comment Naples a vu partir certains objectifs. Il a mis un peu dans les viseurs son entraîneur en disant on a fini l'essence en avril. Il n'y a pas eu autant de rotations. L'effectif n'a pas bien été utilisé. Mais ce que je veux dire dans mon avis tranché...
Est-ce que c'est vrai ça? Parce que l'histoire de l'effectif que tu fais jouer une année, que tu tournes à 14, c'est vrai que c'est fou. Mais est-ce que réellement, j'en sais rien, ça c'est toi qui sais, il pouvait faire beaucoup plus tourner, Sarri?
Il aurait pu faire tourner plus, surtout en sa fin de saison, quand t'as le retour de Milik de la blessure, et c'est Mertens qui est tout le temps titulaire et reste cette match sans marquer. Et dans une rage finale comme ça, c'était important d'avoir des buts. C'est vrai que des joueurs comme Zielinski, il a été pas beaucoup utilisé souvent titulaire. Rogue, on l'a presque pas vu. Après, il y a la base de conflit, c'est une autre, à mon avis. C'est qu'il y a Mercato fait par De Laurentiis et c'est pas Mercato fait à 100% par Maurizio Sarri. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui sont arrivés, qui sont des bons investissements, qui sont jeunes, qui dans l'avenir peuvent être une vraie plus-value à la revente. Mais c'est le président qui l'a fait. Mon avis tranché, c'est que De Laurentiis doit continuer avec Sarri, doit tout faire pour les garder, mais doit lui donner les clés du camion. C'est-à-dire, cet été...
Il va faire quoi de plus? Pour le Mercato, tu veux dire?
Cet été, il y a au moins 5-6 joueurs qui vont partir. Reyne est déjà parti, Koulibaly probablement va partir, Mertens en clause ridicule à 28 millions, donc probablement va partir, Caleon est arrivé il y a 5 ans, c'est en fin de cycle, Jorginho est recherché par plusieurs clubs, dont Manchester City. C'est une été des révolutions, mais il n'y a pas de meilleure personne pour faire la révolution cet été que Maurizio Sarri, parce qu'aujourd'hui Sarri c'est une valeur certaine. Si on parle autant, on a parlé autant cette année des Napoli, même dans les deux dernières saisons, c'est pour le résultat qui a fait ça. Et je pense vraiment que De Laurentiis est un peu désolé de ça, parce que c'est pas son Napoli, c'est le Naples de Maurizio Sarri. Il y a un conflit entre président, entraîneur, un peu sur qui est le vrai patron.
Ça c'est sûr que si les mecs ne savent pas se mettre à leur place et ont des conflits d'égo de ce genre, ça fait pas avancer le club.
Mais Sarri n'a pas vraiment des conflits d'égo. Sarri veut faire les travaux, mais
c'est,
à sa façon.
C'est marrant ce que tu dis là, parce que ça fait penser à l'interview, bon, certes, il m'en a reparlé, Emery, mais ce qu'il avait donné, l'interview en Espagne. C'est un concept qui est intéressant d'ailleurs, c'est savoir le club de qui. Quand il a dit le Real c'est le club de Florentino Pérez, le Barça c'est le club de Messi,
City c'est le club de Guardiola.
Ouais, j'ai essayé de développer, je dis
et Paris,
aujourd'hui
c'est le club de Neymar, c'est ça?
Ouais, aujourd'hui on peut le Liverpool c'est le club de Klopp qui a réussi à mettre son empreinte. Quand on parle de Liverpool, on le voit lui, même si ça là pourrait peut-être lui voler la vedette, mais pour l'instant c'est quand même Klopp encore. Le Bayern, ça reste le club de Hoeneß et Rummenigge.
Bien sûr.
Et là donc
et la Juve c'est le club de la famille Agnelli, c'est Agnelli quand même.
Et Naples, c'est
aujourd'hui,
ça le problème.
C'est Maurizio Sarri.
C'est Sarri qui, depuis deux ans, fait beaucoup parler de lui, son style de jeu, tout ça.
Plus
et De Laurentiis
joueurs,
a du mal à trouver sa place.
Voilà.
Il n'y a pas de joueurs qui sont mis en avant.
La seule chose qui fait vraiment De Laurentiis, c'est choisir les joueurs. En certain moment, il y a mis des listes à disposition de Sarri. Mais au final, s'il visait sur un certain profil ou l'autre, s'il achetait les grands champions, ce que voulait Sarri et qui cherche de faire pression à De Laurentiis depuis des années, c'est de prendre un vrai grand profil, les joueurs qui fait grandir. Je vais faire un exemple qui a rien à voir, mais si cet été tu vas prendre un joueur comme Iniesta, qui est en fin de contrat, qui est libre, tu lui files un salaire de ouf.
Ce sera le club d'Iniesta.
Mais c'est un joueur, non, mais c'est un joueur qui sait faire gagner, qui aide à porter une mentalité.
Et qui Iniesta?
Oui, j'ai fait un exemple.
Ah oui, d'accord.
Ça arrive des joueurs des grands profils pour faire gagner.
Oui, mais c'est pas Iniesta.
Comme il est libre, tu dois acheter et prendre un grand joueur, tu peux aller chercher un joueur comme ça. Mais jamais,
excusez-moi,
à prendre un joueur comme ça, préfère des profils à valoriser
mais
pour les
mais qui tu mets en avant. Parce que dans la réflexion, en revanche, je trouvais que c'était une erreur. Là, je suis absolument pas d'accord avec lui quand il dit le PSG doit devenir le club de Neymar. Je suis pas d'accord. Mais le PSG ne réussira que s'il devient le club d'un président fort.
Mais tu penses, mais parce que en quoi c'est un problème que ce soit le club de Sarri?
Un entraîneur fort.
Mais j'ai pas dit que c'était un problème.
Ah oui, d'accord.
J'ai dit c'est pas un problème à partir du moment où c'est lui et c'est lui qui impose ses choix. Mais
d'accord,
si De Laurentiis vit mal,
que ce soit entre les deux, quoi.
Voilà. Vit mal le fait que ça devienne celui de Naples et qu'en fait ils ne veulent plus vraiment le soutenir à 100%, là ça va être un problème.
Ouais, okay.
Non, c'est pas un problème quand c'est bien identifié. On comprend. Je comprends pourquoi le Barça est devenu le club de Messi. Le mec leur a tellement fait gagner de trucs, il s'est imposé lui-même. À un moment, ça a été le Barça de Guardiola, puis c'est devenu celui de Messi. Ouais. Au Real, Florentino Pérez a toujours, malgré que Zidane ait une cote monumentale, Florentino Pérez reste le vrai patron. Mais attention, ça peut, alors attention sans que ce soit négatif, ça peut, Zidane qui gagne une troisième Ligue des Champions, ça va être, c'est à le Real de Zidane.
Il commence à prendre un peu d'importance.
C'est intéressant ce que tu dis, la question lui a été posée à Zidane il y a
peut-être 3 semaines. C'est le Real de Zidane maintenant.
Et il a dit, je veux pas dire ça, après c'est le temps qui le dira, si cette équipe est vraiment la mienne, si ce Real est vraiment le mien.
Et je pense que le Florentino Pérez avait mal vécu à un moment que le Real soit devenu le Real de Mourinho.
Oui, mais parce qu'il gagnait pas en plus.
Ouais. En plus.
Ah. Ça, et en plus,
mais c'est intéressant comme concept. Ça, non, parce que comment vivent les mecs à l'intérieur.
L'image qu'il donnait n'était pas, ne correspondait pas à l'image historique du Real. Donc.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe, pour l'Angleterre de ce concept-là, pour savoir qui.
C'est vachement intéressant.
Dans Arsenal, oui, c'était Arsenal de Wenger. Voilà.
Oui, donc
maintenant,
oui.
Il va falloir savoir de qui Arsenal va,
surtout
qui va être représenté le club.
Surtout le Manchester United de Ferguson, et on savait pas c'était le Manchester United de quoi derrière.
Et voilà.
C'est toujours un peu flou. Tu sais que Tottenham, c'est Tottenham de Daniel Levy. C'est pas seulement celui de Pochettino. Mmh. Tu sais que Chelsea, c'est certainement le Chelsea bien de Roman sûr. Abramovic et Marina Granovskaya. Ça fait pas tellement de doute. Et en fait, oui, tu as besoin. Les gars, si vous me permettez, on a des nouvelles sur Alex Ferguson du Daily Mail et qui sont très encourageant. Alors, je dis bien, ce sont des choses qui sont dans le Daily Mail. Ils sont plutôt généralement sérieux, mais apparemment, il est sorti du coma. Il a pu se dresser dans son lit et il a pu parler à des membres de sa famille. Donc, on touche du bois pour Sir Alex, mais c'est plutôt encourageant. On espère bien. Je rappelle qu'il s'agit de choses que l'on dit dans le Daily Mail et c'est pas des informations que j'ai vérifiées moi-même.
Alors, revenons à l'actu en Italie avec la course à la quatrième place quand même. Et là, c'est l'Inter qui se rapproche.
A fait une découverte dans ces dernières semaines. Et cette découverte s'appelle Rafinha. C'était arrivé en janvier. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Inter, s'il y a un joueur qu'il faut fermer, qu'il faut prendre pour la saison prochaine, qu'il faut payer les 35 millions pour les garder, c'est lui. Comment il a changé l'animation offensive de l'Inter, qu'on allait aider Icardi toujours à créer des espaces, comment il a aidé à créer des espaces pour Icardi, comment il garde les ballons, c'est pas un hasard que la semaine dernière, dans cette shoot incroyable de l'Inter, dans les 5 dernières minutes face à la Juve, ça arrive juste après la sortie des Rafinha. Donc l'Inter se rapproche, fait une victoire à Udine, la Lazio fait un faux pas à domicile face à l'Atalanta, reste deux matchs à jouer, la Roma prend un petit avantage au classement, mais il y a encore vraiment trois équipes qui luttent pour ces deux places Ligue des Champions. Et dans la dynamique, je vois un Inter bien lancé qui, dans le dernier match à Roma face à la Lazio, peut passer devant, et je vois un Inter qui en ce moment c'est un peu mieux que la Lazio, qui a vraiment fini la séance et a perdu pour blessure Luis Alberto et Immobile. Mercredi, finale de Coupe d'Italie. Très important parce que
Juve-Milan,
la Juve pour les quatrièmes doublés consécutifs, c'est-à-dire pour une hégémonie totale du football italien. Milan pour revenir à soulever un trophée. Il avait gagné un super coupe, c'est vrai, il y a un an, mais c'était un super coupe après avoir perdu la finale de Coupe d'Italie. Là, c'était une trophée gagnée, on peut dire, du début à la fin. Et ce serait un gros succès pour Gattuso. Et je pense que sur un match, Milan peut vraiment poser des problèmes à la Juve. La Juve vient de...
C'est mercredi ?
C'est mercredi soir. La Juve a pratiquement gagné le titre ce week-end.
Parce que Naples
a fait match.
Pratiquement, je vois pas. Il y a 6 points, il reste 2 matchs.
Et c'est la différence de but.
Non, rien. C'est pas encore.
La différence de but, 61-45 en 2 matchs.
Une victoire 12-0 et de l'autre côté une défaite 13-0.
C'est virtuel. C'est le titre virtuel.
Disons que t'as pas le droit de le dire encore.
Dans la confrontation directe, c'était 1-0 et 1-0. Donc c'est l'égalité totale. Donc c'est la différence de but, un cas où, mais bon.
Parce que la Juve peut très bien aller perdre à Rome dimanche.
La Juve peut aller perdre à Rome dimanche. Je pense pas qu'elle va pas perdre 10-0. Mais bon, donc on attend ce week-end pour dire que la Juve est champion.
Très bien. Ben voilà pour l'Italie. On enchaîne avec l'Allemagne. Jingle Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et là, tu as identifié ce qui est en train de devenir un problème au Bayern.
Oui, alors Fred Hermel parlait tout à l'heure de trucs de journaliste et pour ma part, je suis pas très adepte, même si en Allemagne on aime bien la bière sans alcool, je suis pas très adepte de l'écume en général et du buzz en particulier, mais il y a quand même, me semble-t-il, un vrai problème qui est en train de se développer pour le Bayern, pour le club Bayern, pour l'institution Bayern, avec son attaquant vedette, son numéro 9, Robert Lewandowski. Je crois que c'est vraiment le thème sur lequel il faut s'arrêter un peu ce soir, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de mousse depuis ce week-end et depuis le fait que je vais rappeler rapidement. Robert Lewandowski, alors que le Bayern va s'imposer tranquillement contre Cologne, finalement une victoire 3-1 ce week-end, Robert Lewandowski est sorti à 10-15 minutes de la fin, je ne sais plus exactement, par son entraîneur Jupp Heynckes, qui fait entrer à sa place sa doublure Sandro Wagner. Lewandowski sort en traînant les pieds du terrain, la tête basse. frappe dans la main de l'adjoint de Joep Heynckes et vient ignorer ostensiblement son entraîneur Joep Heynckes avant de s'asseoir agacé sur le banc de touche. Ce fait-là peut être considéré comme négligeable. Ribéry a déjà, par exemple, eu des sautes d'humeur et des réactions comme ça au moment de sortir du terrain. Sauf que, je vais revenir quelques mois en arrière, si vous voulez, rapidement, messieurs. 12 mois en arrière, Lewandowski fait au Bayern une espèce de cinéma en expliquant que il a besoin autour de lui au Bayern de joueurs plus forts. Que vous vous souvenez peut-être de cet épisode, cette déclaration. Voilà, derrière, il critique ses coéquipiers en disant que s'il n'a pas été meilleur buteur, s'il n'a pas dépassé la marque qu'il a obtenue la saison dernière au nombre de buts marqués, c'est par la faute de ses coéquipiers.
Il en a quand même mis 29 cette année, hein. C'est pas rien.
Alors, voilà, cette année 29, c'est un grand paradoxe que Robert Lewandowski soit considéré, et je vais y venir là tout de suite, comme un vrai problème maintenant au Bayern, parce qu'il a quand même inscrit, messieurs, 150 buts en 193 matchs avec ce club depuis 2014, la date de son arrivée. Donc on ne devrait pas avoir du tout à remettre en question ses qualités, sa présence et son talent de buteur. Sauf que, eh bien là, les flingues sont sorties, si je puis dire. Robert Lewandowski se fait découper. Alors on a l'impression pour certains que c'est du service commandé d'ailleurs. Par exemple,
j'allais te dire justement.
Alors voilà, Paul Breitner qui l'a démonté ce dimanche. En expliquant que Lewandowski c'était la Ich AG, c'est-à-dire la société anonyme pour ma gueule en français.
C'est bien, ça va. Ça comment tu dis ça?
C'est spécial.
Ich AG, AG ça veut dire
ça. Ok. Ich,
ça veut dire jeu. Absolument. Donc la société du jeu. Bon, voilà, Dietmar Hamann, ancien joueur de Liverpool dont Philippe se rappelle bien et toute l'Europe aussi a dit ce week-end. D'ailleurs, je me suis pas inspiré de lui pour faire mon avis tranché, mais il a dit ça commence vraiment à devenir un souci Lewandowski. Et puis d'autres se sont exprimés aussi dans ce sens. Vous avez vu les images. Nos auditeurs ont forcément vu l'image de Joep Heynckes venant réprimander à la fin du match comme un élève qu'il met au coin Lewandowski en pointant son index en disant mais gamin t'as pas à reprocher mes choix parce que le boss c'est moi. Et on sent que Lewandowski n'est pas heureux en ce moment au Bayern, absolument pas heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, ça va devenir un vrai problème parce que le Bayern n'a jamais exprimé l'idée de se séparer de ce joueur-là s'il ne trouvait pas un équivalent à Lewandowski. Or, il est bien évident qu'aujourd'hui, pour trouver un équivalent à Lewandowski, pour le remplacer avec un attaquant, un avant-centre de valeur, il faudra débourser bien plus que les 40 ou 42 millions d'euros qui sont des sommes records déboursées par le Bayern pour Tolisso et par exemple le record de transfert du club et autres joueurs qui ont pu coûter cette somme-là comme Javi Martinez par exemple. Voilà. Alors peut-être que le Bayern pourrait envisager éventuellement si l'opportunité était bonne
les 9,
de débourser 60 millions d'euros.
Les 9 ça court pas les
rues,
mine de rien.
Non. Pardon Daniel ?
Les 9 ça court pas les rues.
Exactement. Alors après, il y a une autre solution plus risquée. En Bundesliga, de toute façon, vous pouvez fonctionner avec Wagner, vous pouvez fonctionner avec Thomas Müller, vous pouvez fonctionner avec un jeune, vous serez champion, hein, si on résume. Mais
en Europe, t'as besoin du top.
Ligue des champions. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que
le top, Fred, aujourd'hui, c'est quoi si tu fais un chapeau 1 des numéros 9 dans lequel peut
piocher le Bayern. Mais on a eu des chapeaux toute l'année, je les ai jamais vus.
Ouais, il faut jamais venir. Ça va venir.
La question, c'est ceux qui peuvent bouger. Tu as qui? Tu as Ken?
Ouais.
Oui, tu as Ken. Ça va pas être aussi.
Un tarif pas très Bayern.
Voilà. Il n'y a aucun tarif Bayern.
Même Icardi, c'est 110 millions de clauses.
Et combien tu dis?
Bayern. 110 millions de clauses pour Icardi.
Donc le Bayern.
Les mecs, c'est quoi les mecs, les neufs un peu sur marché là.
Benzema.
Icardi.
Il est pas sur le marché, il reste.
Non, mais
Cavani. Non, Icardi, Kane.
Cavani.
Cavani est sur le marché.
Cavani,
on considère qu'il reste pas forcément.
Falcao, non?
Morata est sur le marché.
Ah, Falcao.
Ouais, Morata, attends.
Morata est sur le marché.
Morata, Fred.
Morata, c'est une doublure.
Higuain?
Mais oui.
Non, je sais pas, moi je pense des neufs. Trop gros.
Non, trop gros.
À moyen terme. Plus là, les joueurs.
Dzeko.
À moyen terme, le Bayern mise sur
Dzeko,
les jeunes.
Dzeko, c'est un profil Bayern, hein, Dzeko.
Dzeko, c'est un profil Bayern. Fantastique. Et cet été pourrait pas, et c'est, à cet hiver pourrait partir pour 30
millions. Mais lui, tu l'as presque, lui, tu l'as pour une poignée de figues, hein.
Voilà, on a réglé les problèmes de mercato du Bayern.
Bon, tu t'en occupes, David.
On appelle Stadia Mikic et on règle les problèmes.
Ah, il a quel âge, Simone Dzeko?
31.
Ah oui.
31, oui. C'est Werner de Leipzig.
Ah bah, c'est pour ça que ça
32. Figues,
hein. 32. Ouais, Werner, il était pas destiné à aller au Bayern, Thibaut Werner? Ou c'est, où il y a trop, où ça fait trop de bruit là-bas?
Bah, pour l'instant, il est pas question d'un départ de Werner.
Ah bon, d'accord. Bah, Leipzig, leur idée, c'est pas de vendre?
Si.
Bah alors?
Ah bah, voilà, on a peut-être trouvé la solution ce soir. En tout cas, ce qui est sûr.
Après, c'est sûr, c'est que...
Daniel, il est convaincu. On persuade, ouais, on persuade facilement David.
Ils ont vendu Keita à combien? 80 millions pour Liverpool?
Non, mais
j'imagine que vous avez fini sur Lewandowski, David.
Moins que ça.
Pas tout à fait.
Un truc sur Lewandowski, David. Oui. Est-ce que tu crois, parce que tu parlais de critique orientée, et tu nous as souvent expliqué aussi que, par exemple, t'as des joueurs qui, tu as, trop vieux,
hein.
Que par exemple le Bayern a des relais dans la presse, etc. Le fait que Lewandowski ait pris un nouvel agent, voilà.
Oui, d'ailleurs il l'a pris jusqu'au 31 août seulement.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'il essaie de venir au Real. Mais c'est trop tard pour le Real. Et j'ai l'impression qu'il s'est mis tout seul dans la merde, Lewandowski.
Mais le Real, ils vont prendre qui? Kane?
Kane plaît à Zidane, mais pas au président qui considère que les Britanniques ça marche pas.
Bah, il va bien falloir qu'ils prennent un neuf quand même.
Griezmann. Ils vont en prendre un, c'est sûr. Icardi plaît beaucoup.
Griezmann, c'est pas un neuf. Icardi, il a le profil Real.
Ouais, il plaît beaucoup.
Bon, Sergio Aguero n'a que 29 ans au passage.
Ah bah, Aguero, il faut le mettre dans cette liste alors.
C'est un bon joueur, lui.
Il faut le mettre dans la liste parce que.
Il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête là, on arrive au bout. Merci messieurs. Merci David.
On va faire notre marché.
Merci Fred.
Merci. On n'est pas à l'abri de découvrir un numéro 9 demain soir. Merci Jean-Louis. En finale de Coupe de France.
Ah, peut-être l'avancée des Herbes.
Bonsoir à tous.
Peut-être.
Il est avec toi.
Merci Pierre, merci Daniel. Demain, l'After revient après la finale de la Coupe de France. Les Herbiers PSG, événement, ne ratez pas le dernier match de sa carrière commenté au stade par Captain Larquet. Ce sera demain sur RMC, la finale de la Coupe de France. Bon, après, il sera là encore à l'antenne, hein, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Mais ce sera son dernier match commenté au stade demain, donc. Et puis la Coupe de France, ça commence dès 18h dans Team Duga. Ciao à tous.
RMC, le super football show, l'After Foot.